là, nous sommes là et nous sommes citoyens et on travaille avec vous. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, plus vite, grand public,
indicateur. On voit que ces questions sont nettement moins abordées, alors que ben, quand on habite quelque part, eh bien, on est de toute façon au cœur même de tout ce qui se passe en matière d'aménagement.
Ils vont nous interpeller en disant eh oh, disons, à la maison, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se fait que chez nous, ce n'est pas comme ça?
13% de superficie agricole sont utilisées autrement qu'on
prise de conscience de problèmes alimentaires, du bien manger, etc. C'est quelque chose d'assez lourd.
Et d'autre part, lutter contre les abus, s'interroger tout à fait poliment et d'une façon très argumentée.
Il y a des mouvements qui se sont organisés au fil du temps, au fil de l'histoire, et qui ont décidé de faire défendre leurs droits, le droit, effectivement, dans des sociétés démocratiques.
On peut s'identifier n'importe comment sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on veut.
Encore une fois, on parle de sexe, et tout de suite, on parle des garçons, on ne parle pas des filles, en fait. Comme si le sexe sur les filles, c'était inexistant. C'est que les garçons, 65 millions de réfugiés dans le monde, et en fait, ce sont souvent des personnes qui sont obligées de se déplacer à cause de guerre, à cause de conflits.
Je suis passé par là pour réclamer certains de nos droits. Je ne connais pas de cause perdue d'avance.
La révolte du canapé à l'engagement militant, est-ce que déjà c'est souhaitable? Et surtout, comment on transforme cet essai entre le révolté du canapé à celui qui devient un révolté engagé?
Fréquence Droits Humains, c'est une émission en collaboration avec Amnesty International.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en cette fin d'après-midi au Secours populaire d'Evreux pour un nouveau direct de Fréquence Droits Humains. Merci à eux de nous accueillir dans leurs locaux. Fréquence Droits Humains, c'est une émission mensuelle où nous traitons des différents thèmes des droits humains et c'est une émission en collaboration avec Amnesty International. Ce soir, nous allons parler des exclus du numérique, l'impact de la dématérialisation sur notre vie quotidienne, de la sécurité de nos données et des solutions alternatives que nous pourrons apporter. Pour ce faire, dans cette émission, nous aurons Jean-Jean et JC et Juliane, Jean-Jean, à la technique, JC et Juliane au micro. Nous aurons Didier et Claire-Lise d'Amnesty International avec nous.
Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut faire cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé, et dans la vraie vie, approuvé par tous, l'été papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses.
Voici, actif.
Pour ce faire, nous sommes accompagnés de plusieurs invités, n'est-ce pas, Juliane?
Oui, exactement. Alors, on a Monsieur Texot ce soir. Monsieur Texot, vous êtes secrétaire départemental et trésorier adjoint du Secours populaire. Vous avez participé à la création d'une antenne aux Andelys il y a 5 ans, dont vous avez été le responsable. Vous êtes actuellement responsable de Solidaribus, dont vous pourrez nous parler plus amplement dans un instant. Et l'une des actions principales du Secours populaire étant l'accès aux droits. Vous accompagnez les personnes qui font appel à vous dans leurs démarches administratives et de santé comme conseiller numérique. Et vous êtes aussi responsable et agent aidant Connect. Vous animez des ateliers numériques durant lesquels vous initiez à l'informatique les personnes victimes de fractures numériques ou d'électronisme, et bien sûr, on définira ces termes ensuite. Monsieur Mankou, vous êtes docteur en sociologie, également spécialisé en droits humains et en action humanitaire. Vous enseignez à Sciences Po Reims, ainsi collaborateur dynamique sociale à l'Université de Rouen. Et vous êtes délégué du défenseur des droits à la Maison de la Justice et du Droit de Louviers depuis plus d'un an. Et vos missions consistent à recevoir gratuitement et à aider les personnes qui font appel à vous lorsqu'un désaccord les oppose à l'administration ou à un établissement public, comme la Caisse d'allocation familiale, la Caisse primaire d'assurance maladie, le Bureau des droits des étrangers. Et vous agissez également en matière de lutte contre les discriminations, que ce soit en raison de l'âge, du sexe, de l'origine, de l'état de santé, etc. Et notre dernière invitée, Madame Lucette, je n'ai pas votre nom de famille, Dassault. Pardon ?
Lucette Dassault.
Ah ben voilà, merci. Donc vous êtes professeuse des écoles à la retraite et vous faites partie du groupe radio De vous à nous.
Institutrice, je pourrais le faire.
Institutrice. Merci.
Alors.
Et pour commencer, j'aimerais bien que l'on définisse concrètement le rôle de vos structures, que ce soit Brice Mankou, défenseur des droits humains, que vous nous dites concrètement que fait les défenseurs des droits humains, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Bien, merci. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Radio Actif avec ce panel aussi important d'invités. Et donc, le défenseur des droits, comme on l'appelait depuis 2011, c'est une institution qui a été qui est indépendante, qui est née à partir du moment où d'autres institutions comme le médiateur de la République, les défenseurs de droits ou le responsable de la HAL, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, ont disparu pour ne faire qu'une institution. De quoi s'agit-il quand on parle de la défense des droits? En fait, c'est une institution indépendante nommée par le président de la République. Et en l'occurrence, notre défenseur de droits, c'est Claire Hédan, dont la mission est justement de régler un certain nombre de contentieux qui peuvent subsister entre les administrés, les usagers, les réclamants et l'État. Mais quand on parle de l'État, on voit également toutes les autres institutions parapubliques comme la CAF, la CPM, et bref, toute personne qui est en litige avec l'État, en conflit avec l'État, parce que ses droits ne sont, par exemple, bafoués, peut saisir effectivement les défenseurs de droits. Une deuxième mission, c'est la lutte contre les discriminations. La lutte contre les discriminations par rapport justement à la volonté qu'a le gouvernement aujourd'hui de lutter contre les discriminations, d'en faire en tout cas une cause nationale. Il y a une dernière mission, c'est celle de défendre les enfants, puisque nous avons hérité également de l'institution qu'on appelait la défenseur des droits, qui entre aussi dans le cadre des missions de la défense des droits.
Eh bien, merci Brice Mancou, et je vous posais la même question à Christian Texo sur le rôle du secours populaire.
Bonsoir à tout le monde. Je suis content d'être ici, de pouvoir représenter cette association, l'association Secours Populaire, qui est une association humanitaire, loi de 1901, bien sûr, qui s'est donnée pour mission de lutter contre les précarités, de lutter contre les inégalités aussi, qui s'est donnée mission d'aider toutes les personnes victimes de l'injustice, de la faim, des guerres, et cela partout dans le monde. C'est pour ça qu'on est une association humanitaire, parce qu'on est en France, mais aussi bien à l'étranger. Et effectivement, aujourd'hui, l'exclusion numérique, puisque ça va être le but de notre débat de ce soir, fait partie justement, puisque d'ailleurs avec le mot exclusion, déjà pour nous, Secours Populaire, le mot exclusion n'accepte pas, et ça fait donc partie forcément de notre mission que de travailler pour limiter au maximum cette exclusion. Voilà.
Eh bien, merci Thierry. Et tout de suite, pour commencer, je vous propose d'écouter un... Oui, je sais.
Alors moi, je voulais aussi que Lucette, éventuellement, quand même, nous donne, parce que Lucette, on la connaît bien, pour tout dire aux auditeurs et à nos invités, Lucette, on la connaît bien, elle fait partie d'un groupe qui anime une émission de Vous à nous, on vous dit presque tout, qui est une mensuelle sur notre antenne. Alors on pourrait passer vite comme ça, en oubliant de la présenter, mais pas du tout. Moi, je voulais savoir un petit peu, quel est ce contexte de cette émission de Vous à nous, et pourquoi et comment vous portez votre regard il y a peu de temps sur le numérique, mais sur tout un tas d'autres thèmes de la société.
Alors, cet atelier qui se termine par notre émission de Vous à nous, on vous dit presque tout, a été mis en place par le CCAS en direction des seniors pour qu'on garde des rencontres, qu'on continue à s'enrichir. Et c'est nous qui choisissons les thèmes qu'on va aborder. Souvent des thèmes qui nous posent problème ou on trouve intéressant. Donc, il y a eu le mois dernier, il y a eu l'alimentation. Là, on travaille sur la langue. Et en début d'année, on avait travaillé justement sur l'informatique et sur le numérique. Parce que, en étant senior, bon, certains parmi nous se débrouillent très bien, soit parce qu'ils ont eu contact avec le numérique par leur métier, et puis d'autres sont vraiment un peu perdus. Et moi, je crois que je suis entre les deux. C'est-à-dire que je m'y suis mise parce que je suis assez curieuse, donc je m'y suis mise, mais ça n'est que du bricolage. Il me manque le vocabulaire, et quand on n'a pas le vocabulaire, c'est très difficile de communiquer quand on a par exemple une panne, quand on ne comprend pas il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'indications qui sont données en anglais. Anglais que je ne maîtrise vraiment pas très bien. Et comme j'ai toujours peur d'attraper un virus, hop, je coupe tout. Donc, si vous voulez, on se trouve quelquefois un petit peu exclu. Et c'est ce que vous disiez, j'ai entendu l'autre jour à la télévision, puisque maintenant, on remplit tous les papiers, on remplit par Internet. Il y a en France 4 millions de personnes qui se trouvent exclues, soit par manque de moyens et qui ne possèdent pas de matériel informatique, soit parce que leur âge ne permet pas de se mettre à l'informatique, soit parce qu'on n'en a pas les capacités ou on n'en a pas le goût, ou alors parce qu'on se trouve dans les zones blanches. Et je trouve que ça fait beaucoup de gens qui se trouvent exclus parce que vous avez les impôts, vous avez une demande d'identité, enfin, tout passe par Internet. Alors on a travaillé ça un petit peu avec, avec tous les autres amis qui font partie de notre groupe.
Eh bien, merci Lucette, et bon, on repasse au micro-trottoir, Jean-Jean.
Que pensez-vous du tout numérique ?
Oh là, oui, c'est un peu... c'est qui tout double en fait. Ça dépend des personnes. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas, donc c'est vraiment qui tout double. Comme moi, bon, ça gagne du temps pour moi parce que voilà, des fois j'arrive à faire ça, ça gagne du temps. Mais pour d'autres personnes, comme voilà, ma mère qui n'est pas du tout sujet à Internet, les mails, pas de boîte mail, pas tout ça, donc c'est très difficile pour ces personnes-là.
Bah oui, j'en parle à la télé.
Oui, c'est pas souvent pratique. Non, c'est pratique. Certaines choses, t'as fait le choix aujourd'hui, c'est de le faire par Internet. Oui, après, quand on ne se connaît pas, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais sinon, je trouve que c'est pratique quand même.
Je suis pour toi. Ben, simple raison, c'est que tout le monde n'a pas Internet et tout le monde ne va pas avoir la possibilité d'y avoir accès.
Alors, je suis d'une ancienne génération, alors je vais être très franc, j'aime pas du tout. Je suis d'une ancienne génération qui préfère en fait se déplacer pour avoir des personnes, des vraies personnes en face d'elle, plutôt que de tout faire sur Internet. Après, je conçois que ça puisse dépanner de temps en temps, mais je favorise quand même le contact humain.
Est-ce que vous avez des retours par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Brice ou Christian par rapport à ce micro-trottoir ? Oui, Brice ?
Oui, le micro-trottoir est très édifiant et ce que vient de dire justement madame tout à l'heure aussi l'est tout autant. Alors, on a aussi en France coutume de dire que la transformation numérique de l'action publique avait vocation à aider dans ce qu'on appelait, sous François Hollande, le choc de simplification, à aider l'administration à se moderniser, etc., etc. Mais on se rend très bien compte que le fossé est grand. Avant que de lancer des lois de ce type-là, il aurait pu être imaginatif, en fait, de se dire, mais cette loi sur la transformation numérique, comment elle arrive à s'incruster dans les territoires, puisque on est quand même dans un pays où on ne peut pas dire que le taux de pénétration d'Internet est de haut débit est sur tous les territoires, y compris les territoires ruraux. Ça ne serait que cet aspect-là est un aspect très important. Deuxième autre aspect, c'est justement le fait que nous n'avons pas assez de gens, en tout cas des gens modestes, qui ne peuvent pas s'acheter encore un ordinateur qui demeure pour eux encore un outil de luxe. Troisième, autre facteur sur lequel le gouvernement ou ceux qui votent des lois à l'Assemblée nationale auraient pu réfléchir, c'est de se dire, mais à côté justement de toutes ces personnes qui peuvent se débrouiller pour faire remplir notamment des formulaires ou remplir un certain nombre de dossiers sur le net, combien de personnes on laisse sur le bord de la route? 4 millions, madame est généreuse, mais on se rend compte dans nos permanences que ça touche beaucoup plus que 4 millions de gens qui viennent parce que leur retraite, par exemple, n'a pas été versée et à qui on demande justement de repartir sur Internet et qui n'ont pas d'ordinateur. Ça, pour les permanences que j'ai souvent à Louviers, j'ai des personnes d'un certain âge qui viennent me voir pour des questions de CARSAT, pour des questions de CAF, mais tout est dématérialisé, alors que même on n'est pas du tout sûr et certain que tout le monde en France possède un ordinateur et peut se servir de cet ordinateur. Le gouvernement rétorque qu'il y a des maisons France Service, mais faut-il encore le savoir? Faut-il encore que ces maisons France Service soient accessibles à un certain nombre de gens, quand on sait très bien qu'avant d'aller voir ces maisons France Service, il eût fallu, pour les usagers, de commencer un travail de déclaration et qui passe nécessairement par Internet. Et donc on voit très bien que le fossé est grand entre la technologie que nous saluons, les forces de la technologie que nous saluons, et l'exclusion numérique que cela provoque. Au lieu donc de lutter contre la fracture numérique, cette fracture numérique est devenue une fracture presque sociale.
Vous parlez des maisons France Service. Est-ce que vous pouvez expliquer le rôle de ces maisons où est-ce qu'on peut les retrouver?
Il y a un certain nombre de structures qui avaient été labellisées France Service, des CSAS, des associations qui ont pu avoir ce label-là. Il y a aussi d'autres organisations d'éducation populaire qui ont été labellisées par les services de l'État. Mais le problème de France Service, c'est qu'il y a, encore une fois de plus, une autre manière d'amener de la complexité à la complexité. Aujourd'hui, là où je tiens mes permanences, c'est la maison de la justice et du droit, c'est connu. Mais les maisons de France Service, pour les rechercher, est-ce la mairie, est-ce l'association? Et je demandais justement à Louvier, on me dit, les maisons de France Service, c'est le PIMS. Mais le PIMS n'avait pas vocation à être maison de France Service. Ça a été labellisé quand et comment le PIMS accompagne ces gens qui sont exclus, notamment dans le numérique, etc. On se pose des tas de questions par rapport à ça.
Rien que le PIMS, vous m'avez perdu. Hein. C'est l'abréviation PIMS, par exemple, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, moi, personnellement, et je suis plutôt quand même dans l'air du temps et bien connecté.
Le PIMS, moi, je ne saurais vous dire. Bon, en fait, c'est une instance, une structure de médiation. Ils sont situés dans les locaux de la Maison de la Justice et du Droit de Louviers. Ils accompagnent justement des gens à remplir des dossiers EDF, à interpréter une fiche d'impôt, etc., etc. Ils sont là beaucoup plus pour aider les usagers qui ne se retrouvent pas dans ces millefeuilles, déjà qui étaient un problème entier, qui n'était pas résolu, mais auquel on a encore ajouté de la complexité avec le numérique. Bon, déjà qu'on ne se retrouvait pas avec des tas de feuilles, on ajoute à cette complexité-là le fait que les gens doivent désormais utiliser le numérique et ça perd beaucoup de gens. Et c'est là où je dis que cette fracture sociale qui existait est devenue presque la fracture numérique et c'est bien dommage.
Christian Texto, vous voyez, vous en parlez du micro, vous avez une réaction par rapport à ça?
C'est une réaction sur beaucoup de choses. Alors, j'ai tempéré un tout petit peu la chose en disant que le niveau global d'électronisme, parce que là on parle d'électronisme pour faire référence à l'électrisme, on ne sait pas lire et écrire correctement, et là l'électronisme c'est la même chose. On est dans la moyenne européenne. Pas mieux que les autres, mais les autres ne font pas beaucoup mieux que nous. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 17% de la population qui touche. Alors je pense qu'effectivement, les 4 millions, on est un petit peu loin.
C'est simplement une indication donnée à la télévision. Donc.
Voilà, donc on est à 17% de la population qui est touchée, et 67% des plus de 75 ans, et 27% des 60 à 74 ans. Donc on voit bien quand même que ça touche les personnes âgées, mais pas que. Ça touche aussi beaucoup les personnes non diplômées, 44% qui ne sont pas. Les retraités, 41%. Alors bon, les retraités, on va les rentrer dans les personnes de plus de. Alors, 65 ans, on va dire maintenant. Voilà. Ça touche aussi les personnes seules à hauteur de 32% et aussi à 17% les femmes. Donc voilà, on voit en fait qu'effectivement, pour rejoindre ce que disait mon voisin, ça touche encore plus les personnes qui sont déjà dans une situation qui peuvent être déjà dans une situation de difficulté. Et ça met des gens encore plus dans la difficulté par rapport à déjà ce qu'ils rencontraient dans la vie courante. On parlait du fait de ne pas avoir la possibilité d'avoir de l'informatique, mais justement, ça touche qui ne peut pas avoir éventuellement un ordinateur chez lui. on va toucher des personnes qui sont dans des situations financières déjà difficiles. Donc en fait, on rajoute à cette situation-là, on rajoute encore plus. Et je crois qu'effectivement, c'est vraiment la position du Secours populaire d'alerter sur cette situation, parce qu'on est en train de mettre encore plus des gens dans la difficulté avec ce système-là. D'autant que maintenant, on rentre pratiquement dans une obligation. Je vois que, je pense pas que ce soit que de cette année, mais par exemple, la déclaration d'impôt, si elle n'est pas faite par... il faut vraiment le justifier, en fait. Donc, sinon, c'est une amende. On rentre réellement dans des situations qui deviennent catastrophiques. J'envoie même carrément le mot catastrophique. Alors maintenant, pour les maisons France Service, on va en parler, des maisons France Service. Les maisons France Service, normalement, elle est censée en avoir une par canton. Donc, il est indiqué, enfin, ça serait, j'ai envie de dire, la publicité faite autour qu'il n'y aurait pas aucun Français à moins de 15 km d'une maison France Service. Moi, c'est bien si on veut, mais enfin, même 15 km pour des personnes qui n'ont aucun moyen de déplacement, c'est déjà beaucoup. Alors, non seulement il faut savoir où elle se trouve, mais même 15 km, des fois, pour se déplacer, ça n'est pas possible. Et puis, ces maisons France Service, les personnes qui y travaillent sont certainement très compétentes, mais on la limite de. J'ai envie de dire, on leur demande d'être compétents dans pratiquement toutes les matières. C'est vraiment pour moi un pansement sur une jambe de bois, parce qu'on a fermé les services publics de proximité et on s'est rendu compte que là il y avait un vrai déficit. Alors on a dit on va essayer de rattraper ça par les maisons France Service. Mais les maisons France Service ne répondent pas du tout à la même logique, pas du tout dans la même démarche. Et les personnes qui y travaillent n'ont pas du tout la compétence d'un fonctionnaire qui va être spécialisé dans quelque chose de bien défini. Et en plus, effectivement, il faut pouvoir se déplacer. Alors, on nous dit, mais on n'a pas besoin de se déplacer, on peut le faire par visioconférence. Mais déjà, quelqu'un qui fait ça par visioconférence, il a quand même un minimum de compétences dans l'informatique pour y arriver. Donc, on tourne en rond. C'est le serpent qui se mord la queue. Et voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et puis, je pense qu'on est encore loin des maisons France Service par canton. Voilà.
Je voulais revenir sur un élément, parce que là, on parle d'équipement informatique, on parle de compétences informatiques, on parle de connexion comme étant des freins importants. Moi, je voulais questionner peut-être la question culturelle aussi, parce qu'en fait, changer des pratiques administratives ou autres, d'ailleurs, c'est une question culturelle aussi. On voit bien qu'il y a toute une génération de très jeunes qui sont hyper connectés et qui, pour eux, a priori, démarchent ou pas démarchent. D'ailleurs, peu importe la pratique numérique, ça pose aucun problème. Et c'est bien sur un point culturel que ça s'appuie. Je voulais savoir, et là, pour le coup, c'est un regard tour d'horizon de nos invités, peut-être avec des regards différents, si cette question culturelle rentre de manière importante en question dans l'accès au numérique et dans éventuellement cette fracture ou cette dissonance en fait qu'on explique depuis tout à l'heure. Voilà, qu'en est-il de la question culturelle? On l'entendait dans un micro-trottoir tout à l'heure, une personne qui paraissait pas si vieille que ça dire « Ah non, moi au maximum, c'est des gens que je veux rencontrer ». Là, on est bien sur une notion culturelle, peut-être plus qu'une notion numérique. Quelle place en fait cette question culturelle prend Antelle? Lucette, je vois que c'est parti.
Oui, parce que c'est une réflexion du micro-trottoir qui m'a beaucoup interpellée, parce que monsieur tout à l'heure disait qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, enfin retraitées au-dessus de 65 ans, qui vivent seules aussi. Et quand on faisait la démarche d'aller voir, je ne sais pas, quelqu'un à la poste, à une caisse d'allocation familiale, on n'en a plus à cette époque-là, mais les caisses de retraite, ça donnait aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un de façon concrète, pas virtuelle. Et c'est aussi quelque chose qui disparaît. Et tous ces contacts sociaux, alors je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler culturel, c'est quand même quelque chose que je trouve dommageable, parce que ça isole encore plus les personnes qui sont isolées. Et puis aussi, vous aviez raison de dire 15 km, parce que malheureusement, en vieillissant, on devient moins mobile. Et quand c'est loin, c'est fatigant. Voilà. Et tout à l'heure, je voulais faire un petit peu d'ironie. Les gens n'ont qu'à chercher sur Internet, ils trouveront les coordonnées de la maison. Voilà.
C'est vrai que cette question aussi d'accès, enfin, c'est des pratiques nouvelles aussi, toute cette notion de dématérialisation, c'est comme ça que c'est appelé, sont de nouvelles pratiques, et qui dit nouvelles pratiques, ben, des nouvelles façons de vivre pour une population, pour tout un tas de gens, et même en dehors, même du fait du déplacement ou du matériel ou de l'équipement, c'est une nouvelle façon de faire, et les nouvelles façons de faire peut-être parfois prennent plus de temps que ne le prévoit la loi.
C'est-à-dire que c'est pareil, on apprend encore, mais on apprend moins vite quand même, hein. Surtout si on ne pratique pas tous les jours. Et puis, les enfants n'ont pas de difficultés, ou les gens qui sont plus jeunes, parce qu'ils sont nés avec. Donc, pour eux, apprendre à se servir du numérique, c'est pas plus difficile que d'apprendre à se servir. Moi, je dis toujours, c'est pas plus difficile que d'apprendre à faire des nœuds de lacets aux chaussures, parce que c'est pas facile, ça.
Je voudrais mettre un petit bémol quand même à ça, parce que les jeunes, on a des jeunes qui, si on leur met un jeu vidéo, il n'y a pas de problème, mais si vous leur demandez de faire des démarches administratives, c'est autre chose.
Il faut dire aussi que, même quand c'était les papiers, le vocabulaire sur les dossiers n'est pas toujours facile, que ce soit sur l'ordinateur ou que ce soit en papier. Bon, je me suis retrouvée, même moi, avec mon métier, à aider les parents à remplir des papiers, par exemple, pour avoir des bourses. Je peux vous dire qu'il faut suivre, hein, parce que ce n'est pas évident de remplir les papiers. Et je pense que, ben, effectivement, les jeunes baissent peut-être un peu les bras. Et puis, il y a aussi, après, la barrière de la lecture, parce que, qu'on le veuille ou non, quand vous vous servez d'un ordinateur, il faut savoir lire.
Brice Mancou.
Oui. La question que vous posez est une question très intéressante, parce que ça repose un tout petit peu ce que j'enseigne, moi, à Rouen, avec les étudiants. J'ai un cours sur la sociologie des âges. Et dans la sociologie des âges, c'est la sociologie, en fait, des générations. Et comme disait Lucette tout à l'heure, c'est une question, en plus d'être culturelle, c'est une question de génération. Avant l'Android, nous avons vécu l'ère de la télévision. Aujourd'hui, aucun jeune n'a de l'amour pour la télévision. C'est tout de suite se mettre sur les réseaux sociaux. C'est dans l'ère du temps, c'est leur génération. C'est ça qui accompagne effectivement leur éducation et donc leur culture. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. Les élèves français n'ont pas eu du mal à voir l'école à la maison grâce à cette pratique qu'ils avaient, notamment avec savoir se servir d'Internet, savoir aller sur les réseaux, rechercher des informations et pouvoir être à l'aise. Aujourd'hui, à l'université, près d'un tiers de cours se fait désormais en ligne et donc on travaille en mode synchrone. Et ça ne gêne pas beaucoup d'étudiants par rapport à ça. Et ça touche d'ailleurs l'administration avec le télétravail qui a permis tout un chacun aussi de pouvoir suivre, notamment pour ceux qui étaient dans l'administration, un certain nombre de dossiers à distance. Et donc, en plus de l'aspect culturel, il faut ajouter l'aspect générationnel. L'aspect générationnel est quelque chose de très important. Avant, l'âge de la télé avait peut-être le papier. Alors, on lisait beaucoup plus un journal. On était beaucoup plus en contact avec un livre qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a l'avantage d'avoir aussi des bibliothèques numériques. Et quand on voit même l'aspect ou le poids ou l'impact même des TIC, des technologies d'information et de la communication, on dirait même du point de vue des générations, hier, on voyageait beaucoup plus difficilement que maintenant. C'est-à-dire que la culture même numérique accompagne la culture de mobilité qui est la culture des jeunes. Aujourd'hui, qui n'hésitent pas à trouver des inscriptions au Canada, aller au Japon, aller en Chine, etc., etc. Et c'est bien cette génération-là qui permet, grâce à Internet, de bouger, d'être en contact avec le monde, d'être au courant de même ce qui se passe dans le monde, puisqu'ils deviennent eux-mêmes des blogueurs, eux-mêmes des diffuseurs d'informations, avec les TikTok, avec Facebook, avec Instagram, etc. C'est tout ce progrès technologique qui est aussi bien culturel que générationnel que je voudrais souligner à partir d'ici. Aujourd'hui, prenez simplement un exemple avec la biométrie. Vous n'avez plus besoin d'avoir un billet papier. Vous n'avez plus besoin d'avoir un billet papier. Vous arrivez devant un portique, vous scannez, vous passez plus facilement. Hein, vous faites comme ça, 2, 3, 4 barrières, tout est informatisé. Et dès que vous payez votre billet, quelquefois, vous n'avez pas besoin de l'avoir. C'est votre téléphone qui vous permet effectivement de pouvoir payer en ligne, etc. Et ça, c'est en plus d'être culturel, il y a aussi l'aspect générationnel que je voulais soulever par rapport à ça.
Mais là-dessus, j'ai une question. Est-ce que, au-delà de la génération, on a parlé tout à l'heure de précarité, peut-être Monsieur Texo, du Secours Populaire. Donc, on a aussi des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir les outils informatiques, ou qui sont. On a parlé de zones blanches aussi, donc de lieux où finalement la connexion va être difficile. Et ces personnes, justement, en situation de précarité, ne sont pas celles justement qui ont le plus besoin d'avoir accès à ces services, comme une allocation chômage ou autre.
C'est tout à fait intéressant ce que vous dites, effectivement. Ce sont aussi des personnes qui ont un besoin beaucoup plus vital, peut-être, que d'autres à avoir accès à ces services, parce que, effectivement, c'est le RSA, c'est l'allocation chômage. Et ce sont des gens qui se retrouvent justement dans une situation qui ne leur permet pas parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels, qui sont dans une zone blanche, hein, ils ne peuvent pas justement faire cette démarche. Donc, cette démarche, ils ne peuvent la faire qu'en se déplaçant éventuellement dans une association qui va les aider, comme la nôtre, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Ça peut être une maison France Service, mais ils n'ont pas d'autre solution et à condition qu'ils puissent effectivement pousser ses portes, parce que il faut qu'il se déplace. Moi, je pense que, pour revenir un petit peu à ce que vous disiez, c'est vrai qu'on voit plein de choses maintenant, le numérique, c'est vrai que c'est une facilité sur beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire, il faudrait pouvoir avoir le choix. Et ce choix, on ne le donne plus. Et on ne le donne pas, je ne sais pas si même déjà on l'a donné à un moment ou à un autre. Et c'est un peu comme, je prends l'exemple, moi, mes grands-parents, je leur avais présenté une carte bleue, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là, moi je veux avoir des sous, je veux les sentir, je veux avoir une pièce, je veux avoir quelque chose de concret. On a ce problème, c'est, je pense que c'est exactement pareil. Les gens ont besoin d'avoir du contact. Beaucoup de gens d'une certaine, au moins génération, je pense, ont besoin vraiment du contact physique, d'avoir quelqu'un en face d'eux, de pouvoir échanger, ne pas échanger avec une intelligence artificielle, parce que bon, même sur ces sites, on propose si vous avez besoin d'aide, mais en fait, on sait bien que c'est une intelligence artificielle, et quand on pose une question un petit peu qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, il n'y a pas de réponse.
Même si on a une grammaire et un orthographe aléatoire, du coup.
Et en plus, si on a une grammaire et un orthographe aléatoire, alors là, on est... Et ça, alors là, parce que là, depuis tout à l'heure, on a quand même parlé de culture. Dans le côté culturel, il faut quand même évoquer aussi qu'on a quand même une population d'origine étrangère, quand même en France, qui est importante. Et qui a, elle aussi, ses propres codes culturels qui ne vont pas forcément fonctionner avec ce qu'on leur essaie de leur imposer. On peut aussi parler tout à l'heure de ce que l'on disait, c'est bien d'avoir un ordinateur, mais il faut être capable de lire ce qu'il y a écrit dessus. Et on a aussi des personnes, et on en rencontre énormément ici au sein du Secours Populaire, des gens qui seraient peut-être tout à fait capables d'utiliser un ordinateur, sauf que... Un clavier avec l'alphabet que nous connaissons n'a rien à voir avec un clavier cyrillique, par exemple. Donc, comment vont-ils arriver à pouvoir... Et tout ça, c'est... J'ai vu dans quelques cours d'informatique que le premier frein de la personne qui était en face, c'était de déchiffrer ce qui était écrit sur l'ordinateur. La question était simple, mais même cette question simple, elle avait un mal fou à la déchiffrer et à comprendre quelle était la question posée. Donc là déjà, on part, c'est même pas une histoire de savoir utiliser un ordinateur ou pas, et on parle déjà de commencer déjà à apprendre la langue, donc forcément on donne aussi des cours ici, mais voilà, c'est, Mais tout ça rentre, c'est des difficultés. C'est des difficultés, je pense, qu'on a tendance à oublier, que nos dirigeants ont eu tendance à oublier, et font que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on laisse les gens encore plus sur le bord de la route, on laisse certaines personnes qui sont déjà en difficulté, encore plus en difficulté, encore plus sur le bord de la route, et les accès aux droits, effectivement, pour en revenir, c'est ces gens-là qui ont besoin en plus, en ont vraiment besoin pour avoir des accès aux droits. Voilà, et ça peut effectivement décourager même certaines personnes.
Merci Christian Texto. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on reviendra sur cette question de fracture un peu sociale tout à l'heure. C'était le groupe Bloody Weeper avec le titre Sleep. Ils seront en concert samedi 14 mai au Festival de l'Environnement à Auteuil-Autouillet.
Buenas noches. tu parles espagnol. Je crois que tu m'impressionnes. Moi, je sais dire allons à la plage, je suis un arbre. Bah, moi, c'est la playa, c'est dire ça.
Principe actif. Le mix des cultures.
Que pensez-vous de la protection de vos données sur Internet?
Maintenant, c'est de mieux en mieux. La banque, c'est de mieux en mieux. Là, c'est carrément aller sur la banque, il y a des systèmes de code. C'est de mieux en mieux.
Non, moi, je n'ai pas mis sur Internet. Non.
Ça, c'est pas pratique parce que ça, je me suis déjà fait pirater et puis ça dépend. Ça dépend sur quel site vous allez ou sur certaines fois, vous pouvez vous faire pirater.
C'est très mal fait. Je suis professionnel de la sécurité.
Alors, je suis pas assez rencardé. En fait, moi, je suis un peu le genre. Quand je vais sur Internet et qu'il y a ce passage sur la protection des données, je sais qu'il y a toujours tout un tas de trucs à lire, etc., etc. Je crois que j'ai dû le lire une fois dans ma vie, mais moi je suis un peu du genre en fait à cliquer, alors c'est pas cool, c'est nul, mais je suis plutôt du genre à cliquer sur OK, j'accepte, etc. Et quelquefois ça se trouve peut-être que mes données ne sont pas protégées.
On est toujours au Secours populaire pour Fréquence Droits Humains. Nous sommes toujours accompagnés de Brice Mancou, défenseur des droits humains, Christian Texot, conseiller numérique et aidant Connect, ainsi que Lucette qui est là pour nous donner un peu son avis et de vous à nous, vous dit presque tout, on la connaît. Est-ce qu'il y aurait un retour par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur la sécurité des données, Brice Mancou?
Oui, je voudrais donc revenir un tout petit peu sur ce qu'on vient de dire là sur l'impact justement du numérique. Je trouve que Claire Hédon avait fait un rapport en 2019 où il alertait déjà les pouvoirs publics en disant que dans ce rapport que la dématérialisation peut constituer un avantage pour certaines personnes en situation de précarité en améliorant l'accès aux droits, exemple les revenus de ceux d'attractifs à la prime d'activité. Mais elle alertait déjà les pouvoirs publics aussi sur les risques d'une transformation numérique à marche forcée. Alors, vous pouvez quand même revenir sur cette capacité-là qu'ont perdu les citoyens que nous sommes, sur ce que, quelquefois, les pouvoirs publics ont tendance un tout petit peu à nous imposer. Aussi. Parce qu'on doit toujours garder le libre arbitre entre faire et ne pas faire. Il y a des gens qui sont capables de servir d'Internet, mais pensons également à ceux qui ne peuvent pas avoir cette capacité à entrer dans la dématérialisation. On n'a pas pensé, ou qui n'ont pas envie. Aujourd'hui, on dit que le téléphone portable est tellement répandu. Non, il y a encore des Français, plus d'un million de Français qui n'ont ni téléphone portable, ni Internet, ni ceci, ni cela. Et donc, pensons aussi à ces citoyens. En démocratie, et la démocratie numérique d'ailleurs, le recommande, qu'on reconnaisse la capacité pour certains d'utiliser, à d'autres de ne pas utiliser parce qu'ils n'en ont pas envie, ils n'en ont pas envie, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas. C'est aussi ça la démocratie, parce que tout ce que quelquefois nos citoyens votent comme loi, ça passe pas, par exemple, par des référendums, des mouvements de ce type-là, il y a toute une partie de gens sur des tas de questions qui ne peuvent pas adhérer. Et d'ailleurs, c'est Nelson Mandela qui nous le disait. Tout ce qu'on fait de bien pour les gens sans eux est considéré souvent contre eux. Eh bien, dans ce cas, la liberté qu'on a d'utiliser ou pas Internet, d'utiliser ou pas le numérique, entre aussi un peu dans ce cas, parce qu'il y a cette notion de marche forcée. C'est-à-dire que, tel que ça se présente, ou tu entres dans la dématérialisation, ou on te laisse sur le bord du chemin. C'est ce qu'on appelle simplement l'exclusion numérique, qui, déjà, frappe ceux qui ont cette exclusion sociale. Et donc, sur la liberté des données, je voudrais simplement ajouter la chose suivante. Autant Internet ou les technologies d'information et de la communication nous ont aidés, c'est un avantage certain, ça permet effectivement de transformer numériquement l'administration, etc. Mais autant, nous sommes plus libres de nos mouvements. Nous ne sommes plus libres de nos mouvements. Je parlerai simplement de cette surveillance électronique qui nous guette tous. Ça peut peut-être avantager un certain nombre de nos pouvoirs publics, notamment dans la sécurité, quand on veut rattraper quelqu'un qui a commis des délits ou un forfait. On arrive quelquefois à le tracer via la carte bancaire, on arrive à le tracer via là où il est passé pour faire des achats, etc. Mais l'inconvénient que nous avons, nous, pauvres citoyens, c'est que notre liberté soit entre les mains d'un certain nombre de gens qui nous gouvernent et qui sont derrière ces robots qu'on appelle l'informatique, tout simplement. Parce qu'en réalité, on laisse nos données. On laisse nos données bancaires. On achète, on consomme sur Internet. On fait des achats en ligne. Et on est attaquable aussi. Justement, par rapport à tout ça, on ne sait pas qu'est-ce que ceux qui sont derrière ces machines-là peuvent faire de nos données. C'est bien que moi, j'ai comme l'impression que nous avons perdu aussi une partie de notre liberté, qui est un droit fondamental parmi les droits de l'homme.
Sur cette question des droits et avec le numérique, on rentre en plein dans une difficulté peut-être essentielle, et vous venez de l'aborder là, juste du bout du doigt, c'est le fait que nous soyons sur quelque chose d'international. En fait, aujourd'hui, les sites sont hébergés, on ne sait où d'ailleurs, hein, même physiquement, on ne sait pas où ils sont physiquement. Vous évoquiez le commerce, on peut même se retrouver à acheter, je ne sais pas, en Belgique, en Amérique, au Canada, peu importe où, sans même s'en douter. D'ailleurs, ce qui remet en lumière aussi les notions de droit du commerce et toutes ces questions-là. Une des questions, c'est quand même sur cette notion de données, de protection des données, c'est le fait qu'à partir du moment où je l'ai mis chez moi, aujourd'hui à Évreux, mais peu importe où d'ailleurs, c'est dans le monde en fait. Et cette notion-là est difficile à percevoir aussi bien pour l'utilisateur, et la donnée, on ne sait plus ce qu'elle devient. Est-ce qu'il est réellement entendable de dire qu'on peut protéger les données numériques en fait? Est-ce qu'on peut dire que finalement, à partir du moment où je l'ai mis dans la machine, faire exercer un droit devient très difficile?
En fait, le problème aussi, c'est que la législation des pays n'est pas la même vis-à-vis de ça. Donc, effectivement, on en voit quelque chose, j'ai envie de dire, dans le monde, mais l'utilisation qui va en être faite ne va pas être forcément la même suivant le pays où la chose va arriver. Et c'est aussi donner confiance à des gens finalement que l'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, de protéger nos données. On ne sait pas à qui on donne ça et on doit faire confiance pour la protection de nos propres données, ne sachant même pas à qui on a réellement affaire. Et effectivement, là, dans le micro-trottoir, était très intéressant l'histoire de tout le texte qui arrive en dessous. Je mets au défi celui de me dire qu'il y a quelqu'un ici qui l'a déjà lu entièrement, et tellement c'est rébarbatif de toute façon. Puis même, il faudra aussi comprendre, hein, parce que c'est les mots, voilà, il faut aussi comprendre ce qui est dit. Mais c'est tellement rébarbatif qu'effectivement, on va au plus vite, ok. On a ok. Et ça suffit. Et ça suffit, en fait, pour que c'est que les sites soient protégés. Voilà, ça y est, il a mis OK de toute façon. Il avait qu'à lire, mais on ne le fait pas, et tout le monde le sait qu'on ne le fait pas. Et il joue là-dessus de toute façon. Ça serait, sinon, je pense qu'il y aurait des fois où on ne mettrait pas OK. Mais, et donc, on sait très bien qu'au niveau des GAFA, si on parle quand même d'achat, c'est GAFA. On a déjà du mal en Europe à trouver un consensus pour une réglementation qui soit commune à nos pays européens, mais on sait très bien, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est complètement différent, qu'il y a des endroits où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, vendre les données, et on n'a vraiment aucun moyen en tant que citoyen de pouvoir vraiment lutter contre ça et de dire stop. Et on parlait de citoyens qui n'ont pas le choix. Parce qu'en fait, finalement, on fait des faux citoyens. On fait plus. Celui qui ne veut pas rentrer dans le système devient un faux citoyen. Il est mis sur le côté et il devient un faux citoyen. Bientôt, on nous parlera même de voter par. façon électronique. Voilà, je veux dire, c'est pas même ça, on sait même pas si. On sait très bien que le vote électronique, il y a des gens qui ont démontré qu'on pouvait, arriver à le détourner. Et donc, avoir une confiance à 100% de la sécurité de ce qui se passe sur Internet, je crois que c'est illusoire.
Alors, suis-je propriétaire de mes données et qui a le droit de les utiliser parce que je donne mon état de santé à travers mes remboursements CPAM, ma mutuelle, je donne mes revenus et ma situation personnelle même à travers les impôts, il y a mes consommations d'eau, d'électricité, de gaz, qui j'appelle à travers la téléphonie, les sites que je visite et le temps que je passe sur Internet, mes programmes télévision également à travers cette notion d'Internet, il y a le suivi scolaire de mes enfants qui est aussi il y a ma situation de travail à travers toute ma carrière qui est, il y a même mes points retraite qui sont et ce que je vais percevoir si je perçois, il y a mon état de compte en banque aussi qui y est en temps réel, tout l'argent que je possède ou pas, mes déclarations CAF, les aides sociales que je perçois éventuellement, ça c'est que pour la partie administrative parce qu'il y a également mes conversations internet, il y a également mes photos de vacances, il y a mes stockages de documents, il y a ce que j'écoute comme musique, il y a ce que je regarde comme film, il y a mon espace professionnel avec qui je suis en contact, en fait il y a ma vie tout simplement sur Internet, et ce sans avoir décidé de tout confier au virtuel et au numérique. Hein. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une utilisation normale, ordinaire, presque de quasiment tout le monde. Ce sont beaucoup de données pour moi que je donne. Je crois que ma mère n'est pas au courant de la moitié. Pour redonner le niveau de proximité que j'ai avec Internet, blague à part. Hein.
J'irais plus simple, hein, votre compteur Linky.
Oui, également, il y a tout, et en fait, il y a toutes ces questions-là, je disais de manière un peu rigolote, même ma mère n'est pas au courant d'un quart de tout ça, et parce que j'ai plus d'intimité avec Internet qu'avec mes proches. Alors, pour en revenir à la question, à qui sont ces données-là? En suis-je propriétaire? Qui a le droit de les utiliser? Et comment je peux contrôler tout ça? Je ne sais pas si on peut y répondre là comme ça, mais dans un monde idéal, comment finalement on peut se débrouiller avec tout ça? Voyez-vous. C'est compliqué. Hein.
En fait, nous avons perdu une bonne partie de, j'allais presque dire, de notre liberté individuelle avec l'avancée de la technologie de l'information et de la communication. On a aujourd'hui, là je recule un peu un certain nombre de concepts que j'entends souvent. Les gens parlent des réseaux sociaux. Ah, mais j'ai 2000 amis. Ah, c'est que je suis connu, etc. J'ai 3000 amis, etc., etc. Mais 3000 amis, en fait, c'est des amis factices. Quand vous avez un problème, ils ne sont pas là. C'est pour ça que moi, je ne les appelle pas réseaux sociaux, je les appelle plutôt réseaux numériques. On est dans les réseaux numériques, on n'est pas dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est de l'entraide. Est-ce que quand il y a une situation difficile, les gens qui sont mes amis viennent à ma rescousse? Non. Et donc, c'est là où je voudrais rebondir en disant que nous avons aliéner une bonne partie de notre liberté en donnant toutes nos données à des inconnus que nous ne connaissons pas.
Et nous n'avons pas le choix de la donner. Toutes ces données-là, on n'a pas le choix de les donner, finalement. On l'évoquait tout à l'heure à travers la dématérialisation de tout. On n'a pas le choix de les donner. En fait, on ne les a pas données. J'ai l'impression qu'on nous les a prises. Enfin, dans ce qu'on dit.
Oui, il y a une forme de... Comment on appelle? Quand on parle de masque forcé, il y a une forme de dictature aussi qui peut s'en nom. Hein, désormais, c'est comme ça, c'est la loi de la transformation numérique. Où vous entrez, vous êtes nulle part. Imaginons les 1 million dont je parlais qui n'ont ni téléphone portable, ni Internet. Est-ce que là, ils sont complètement largués? Moi, je connais des gens qui n'ont pas de tout ça. Pas de télé, pas de rien du tout. De tout ça.
Certains diraient des amis, hein.
Pour revenir juste sur un tout petit détail, et puis je laisse la parole à Lucette, après vous êtes emparé du micro. Vous évoquez les réseaux sociaux avec les amis qui, le jour où on a un problème pour vider son garage, ils ne seront pas là. On a eu l'occasion de nous travailler beaucoup avec Nathalie Le Thor de l'association La Cause des Enfants, qui travaille sur le numérique et puis l'échange avec les enfants, justement. Et elle décide tout simplement changer le mot ami par contact. Et d'un seul coup, il y a beaucoup moins de désillusions. Voilà. Pardon, c'était juste pour compléter.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais d'ailleurs, la traduction en anglais networks, c'est peut-être plus juste que réseaux sociaux, effectivement.
C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de génération. Je pense que, par exemple, pour moi et pour les gens qui m'entourent,
certains avec les capacités intellectuelles et financières refusent absolument l'informatique parce qu'ils veulent protéger leur vie, si vous voulez. Et nous qui avons été habitués au départ à ne pas avoir de communication avec le monde entier, il y avait déjà les voisins qui vous observaient, ça suffisait. Maintenant, c'est vrai que il y a des gens qui refusent justement pour garder cette liberté. Alors, ça leur pose d'autres inconvénients parce que c'est effectivement, ils se coupent de tout, mais ils vont voir leurs enfants qui ont l'informatique. C'est eux qui font à leur place. Mais c'est, voilà, c'est ça aussi qui gêne un peu. Et l'autre problème, alors peut-être que ça va peut-être aussi aider les auditeurs, lorsque vous vous mettez sur un site de recherche, vous avez toujours paramétré les cookies, accepté les cookies, etc. Si vous mettez « je refuse », ce que j'ai déjà fait, pouf, ça se coupe. J'ai accès pour certaines choses, oui, ne serait-ce que pour une recette de cuisine. Je peux vous dire, il y a des recettes que je n'ai jamais pu avoir. Déduction, maintenant, je mets « j'accepte ». Voilà, parce que je ne lis pas non plus ce qui est écrit, mais je mets « j'accepte », ça c'est moi. Donc, ma foi, voilà, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop ce qu'on protège ou pas. Vous cherchez un gîte, après, ça affiche sur votre bureau tous les... C'est moi. Alors, ça affiche, si vous voulez, après, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez Pierre et Vacances, le machin. Vous vous dites, bah, ça y est, je n'ai que cherché un gîte. Toutes les... Enfin, c'est vrai que c'est perturbant parce qu'on dit, qui possède nos données ? Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle.
Alors, il est censé y avoir des questions. C'est justement là qu'intervient, est censé intervenir dans les conseillers numériques et tous les formateurs. C'est justement pour essayer de donner cette éducation pour se protéger au maximum. Mais les mots de passe, par exemple, il faut faire attention que ce ne soient pas des mots de passe trop simples. Évitons de mettre mot de passe à la place de mot de passe, par exemple, parce que ça c'est une des premières choses que les hackers vont taper. Il faut éviter de mettre la date de naissance, enfin voilà, il faut des choses. Bon, ça on va former en tant que conseiller numérique, on va essayer de donner quelques pistes. Mais au niveau de la protection des données, il est censé y avoir des règles, effectivement, hein, où on peut avoir accès à nos données. Hein. La CNIL nous donne ses droits, où on peut faire supprimer des choses, où on peut demander le site a sur comme renseignement sur nous, faire effacer. On a le droit à l'oubli, on a le droit à l'effacement. Mais ça, j'ai envie de dire, le problème, c'est que ça marche en France, ça marche dans beaucoup de pays d'Europe aussi, ça ne va pas forcément marcher partout. Et par exemple, si on prend, effectivement, quand on fait un achat sur Internet, on va acheter à Taïwan, en Chine, je ne sais pas où, en Inde, machin, et je ne suis pas sûr qu'il y ait ces mêmes protections. Donc, ce qui va être parti, ce qui va partir dans l'espace, parce que c'est un peu ça, on envoie une sorte de bouteille dans l'espace. On ne sait pas du tout ce qu'elle va... On peut peut-être la contrôler autour de nous, mais on ne va pas forcément la contrôler partout. Et c'est peut-être là qu'est le danger. On voit bien que de toute façon, souvent, quand il y a du piratage, piratage informatique, ça vient souvent de pays qui n'ont pas forcément toutes les règles de sécurité. C'est rare, les pirates habitent au coin de la rue en France. Hein, les pirates, on les trouve plutôt dans des pays, soit dans des pays de l'Est, soit dans des pays africains, soit dans des pays où il n'y a absolument pas, où il n'y a pratiquement aucune règle de sécurité. Et c'est, voilà, donc c'est là que la sécurité n'est peut-être justement pas complètement à 100%. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de sécurité à 100%.
Et pourtant, on retrouve de plus en plus, quand on veut faire que ce soit des achats ou des démarches administratives en ligne, c'est de plus en plus compliqué d'accéder sur son espace, car il y a le mot de passe, il va y avoir d'autres demandes, une question, on ne va plus se rappeler, il va falloir envoyer un mail, il suffit qu'on ait perdu le mot de passe ou l'adresse mail, et ça complique. Il y a quand même cet aspect-là qui fait que ça vient aussi d'être plus en plus compliqué d'accéder à ces espaces.
Oui, alors en plus, ce qui fait que, c'est effectivement, comme vous dites, ça devient compliqué, ce qui fait que beaucoup de gens, finalement, ont un petit carnet chez eux avec leur mot de passe. Hein, ce qui est c'est terrible, hein, parce qu'il suffit de mettre la main sur le, mot, sur le carnet pour pourrir la vie de la personne. Dans, et puis, c'est vraiment pour pourrir la vie, hein, parce que là, on peut même aller jusqu'à la déclarer morte et se retrouver dans une situation où la personne, en plus, personne qui est déclarée décédée officiellement, pour qu'elle puisse prouver qu'en fait elle est vivante, il ne suffit pas qu'elle se présente. Hein. C'est quand même terrible, parce qu'on pourrait. Mais non, il faut. C'est tout. Et donc, vous dites un compte en banque. Voilà. Et ça, c'est justement cette difficulté d'avoir. Là encore, il y a des solutions. Hein. Il y a ce qu'on appelle les coffres-forts numériques. Mais ça encore, il faut avoir déjà une certaine compétence dans le numérique pour pouvoir penser à agir comme ça. Et donc, effectivement, c'est le rôle des conseillers numériques d'essayer de faire passer ce message-là. Mais quand vous partez d'une situation qui est à zéro, où la personne sait à peine lire ce qu'il y a écrit sur l'écran, avant d'en arriver au coffre-fort numérique, ça va passer du temps. Hein, voilà. Et là, justement, et là on va peut-être en discuter, je ne sais pas si ça va être un peu plus loin, mais il y a ce côté d'embauche des conseillers numériques qui ne sont que des CDD, et des CDD qui sont sur un temps très limité. Pour beaucoup, c'est 18 mois, voire 24 pour les plus chanceux qui sont dans une administration. Et quand eux, ils ne sont plus là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'État va continuer à subventionner pour obtenir de nouveaux conseillers numériques? Ou est-ce qu'on va dire, bon, c'est bon, ils ont travaillé pendant un an et demi, deux ans, ça y est, tout le monde est capable de s'autogérer? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, parce que c'est pas possible.
Merci Christian Texot. Je voulais savoir s'il y avait des questions au niveau du public. Non. Je propose Jean-Jean d'envoyer une pause musicale, du coup. Non. Thank you.
c'était le groupe Blood Garden avec le titre Je suis là, aussi en concert au Festival de l'Environnement le 14 mai à Auteuil, au Touillet.
Vous voulez du frais, du naturel? Écoutez Principe Actif, 102.4 FM.
Et pour finir, pour vous, quelles sont les solutions à améliorer sur le site numérique?
Non, c'est vraiment parce que ça, je pense à ma mère qui est aux activités, qui me demande souvent donc, qu'est-ce qui est amélioré pour ces personnes-là. D'éviter d'avoir accès à Internet et en même temps au bureau, de faire les deux. Quoi. Parce que c'est vrai que des fois, on va dans les bureaux et généralement, on dit bah, ça se fait sur Internet, mais pouvoir accéder voilà, aux deux. Qu'on puisse le faire dans, au bureau et qu'on puisse le faire aussi sur Internet. Voilà, c'est vraiment la solution qui peut aider les personnes qui ont du mal avec Internet. Donc, voilà, c'est vrai que des fois, on va dans des bureaux, bah, non, tout se fait par Internet, donc c'est vraiment embêtant.
Le plus de mettre de plus, ça va. Ça y est, tout.
C'est pas vraiment, je ne connais pas.
C'est d'abord que les services se mettent au service de la population, non pas l'inverse. Ça serait une bonne idée.
Ah ouais. Alors, comme tu as vu, j'étais pas spécialiste du truc et tout. C'est pas que j'aime pas ça, tu vois, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, je m'en sers au travail, etc. Je n'ai pas de solution en fait comme ça, mais en tout cas sur tout ce qui est administratif. En fait, j'aime pas attendre pendant des plombes, j'aime pas appuyer sur la touche 2, la touche 3, nanana, etc. Donc je ne vais pas être bantard et te dire que j'ai des solutions et tout, parce qu'en fait je préfère quand même le contact humain.
Nous sommes toujours au Secours Populaire pour cette dernière partie d'émission de Fréquence Droits Humains, toujours avec Brice Mancou, défenseur des droits humains, Christian Texot, conseiller numérique et aidant Connect, ainsi que Lucette, toujours là pour nous donner son avis. Non, c'est pas ça, Lucette, son expertise. Son expérience de la vie sur le numérique. Est-ce qu'il y aurait un retour par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Oui, non? Oui?
Oui, alors j'ai beaucoup aimé la personne qui parlait que le service public doit être au service du public et non pas l'inverse. Et c'est tout à fait ça. Le service public, si ça porte bien son nom, ça devrait être un service au public.
On peut peut-être se rappeler les grands principes du service public qui sont continuité, égalité et adaptabilité. Donc est-ce que les services publics se sont vraiment adaptés? Ou peut-être qu'on peut commencer à parler des alternatives. Par exemple, du téléphone, parce qu'il y avait une part importante, il me semble que c'était justement la défenseuse des droits qui avait dû se saisir de cette question, entre autres, sur le fait que beaucoup d'appelants recevaient des réponses succinctes au téléphone, voire passaient plus de temps à téléphoner et à attendre d'avoir une réponse, que finalement une réponse à leur question a été renvoyée vers Internet. Donc est-ce que le téléphone, par exemple l'usage de WhatsApp, comme ça se fait dans certains pays, ne serait pas une idée pour aider les usagers et usagères du service public qui, par exemple, ont plus de mal avec les mails ou les comptes en ligne?
À mon avis, on devrait avoir une solution un peu hybride. C'est-à-dire qu'on garde toujours sous la main que la gouvernance électronique est peut-être l'idéal, mais la gouvernance électronique ne peut pas tout expliquer parce qu'on a encore des gens qui ont du mal. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, si nous estimons que nous sommes services publics, et Dieu seul sait que les services publics en France, jusque-là, nous, sur certains pays européens, nous jetaient des fleurs. Et donc, si nous partons de ce principe que c'est pour rendre un service meilleur et de meilleure qualité à nos concitoyens, prenons en compte aussi qu'il y a dans cette envie-là, ou dans ce projet-là, des gens qui, malheureusement, ne sont pas encore au point parce que, précisément, ils ont déjà cette fracture sociale. Et cette fracture sociale amène forcément, avec les complications, cette fracture numérique. Voilà. Et aujourd'hui, on est capable donc de s'assurer que l'achat, par exemple, d'un équipement comme un ordinateur est facile pour un certain nombre de gens quand on sait qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas pu régler la question de manger, la question de se soigner, la question de pouvoir bouger sans trop de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on achète aisément, lorsqu'on est d'une famille modeste, un ordinateur, sans que cela nous fasse mal au budget? Et donc, à à cette question-là. Moi, je n'ai pas la réponse. Et il y a aussi la question de la compétence numérique ou de la formation. Est-ce que cette formation est assurée dans nos centres sociaux? Est-ce que cette formation est accessible à tous? Est-ce qu'elle est gratuite, etc.? Une fois qu'on a fait le tour de tout ceci et que je me rends compte que le compte n'y est pas, eh bien, laissons cette possibilité-là qu'on a de pouvoir avoir une gouvernance hybride plutôt qu'une gouvernance une gouvernance électronique où on laisse une bonne partie de nos populations dans la galère. Il y a cette possibilité-là qu'on a de pouvoir donner aux personnes âgées ou aux jeunes vivant dans des milieux ruraux, même dans des quartiers QPV, la possibilité de remplir des choses telles qu'ils le faisaient. Dans des services comme les impôts aussi, ayant en fait dans chaque service des médiations numériques. On n'a pas. Un peu comme sur la loi sur le handicap avec l'accessibilité, on devrait avoir aussi cette capacité dans toutes nos administrations à avoir des gens, lorsque vous arrivez comme usager, que vous avez du mal avec le numérique, de les accompagner. Mais si l'administration ne peut pas le faire, eh bien moi je me pose des tas de questions.
Merci. Bah, peut-être une question à M. Texot du Secours Populaire, parce que justement, est-ce qu'on a eu des associations qui, par exemple, sont en charge d'aider les personnes migrantes, les mineurs non accompagnés, par exemple, pour justement un peu batailler pour conserver un service public avec un accueil physique ou téléphonique? Qu'est-ce qu'il y a eu de ce côté-là, justement, pour aider les personnes?
Les associations, oui, le Secours Populaire fait partie de ces associations qui essaient d'alerter les autorités publiques de toutes ces difficultés et du fait que du manque de services publics, effectivement, et de l'accès aux droits des personnes à pouvoir rencontrer effectivement des médiateurs, donc des gens physiquement pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir des réponses à leurs questions sans effectivement appuyer sur le bouton 1, le bouton 2 ou le bouton 3 du téléphone ou du clavier. Voilà. Mais je voudrais quand même rebondir sur une chose. On a quand même une idée. Une idée en France, donc que le service public coûte cher. Moi, je pense que c'est pas une vérité. Le service public ne coûte pas cher. Le service public, au contraire, peut être une richesse pour un pays. J'ai du mal à saisir cette logique qu'à partir du moment qu'on n'aura plus de service public, chez nous, alors on va les remplacer par du numérique ou les remplacer par du privé, mais je ne suis pas sûr que ça va coûter beaucoup moins cher à l'État. Ça, c'est une première réflexion. Il y a une deuxième réflexion, là, bon, qu'on n'a peut-être pas encore abordée, qu'on aura peut-être le temps d'aborder un tout petit peu, c'est une fausse idée que le numérique est écologique. Alors qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est important, et le numérique, on a une fausse idée de dire que c'est écologique. Alors d'abord parce que la plupart des administrations continuent quand même à faire du papier, hein, parce que c'est pas parce que vous leur envoyez quelque chose par internet qu'ils ne vont pas l'imprimer de leur côté. Mais en plus ça a un coût énergétique énorme. Dans le monde, l'informatique a un coût énergétique dans le monde. Alors effectivement, ça ne se voit pas ou derrière son PC, mais quand on envoie ne serait-ce qu'un mail, il faut voir ce que ça coûte aussi à la planète. Et là, on fait de l'écologie bashing, on essaie de nous faire croire que c'est beaucoup mieux parce que c'est dématérialisé. J'ai un sérieux doute, je pense qu'il faut se pencher un peu sur la question et en discuter. Je crois qu'on pourrait voir que ce n'est pas si écologique que ça en plus.
Claire Lise d'Amnesty International nous a rejoint
Carlise, je te laisse le micro.
Oui, c'était juste pour revenir un petit peu sur quand vous disiez, par exemple, par rapport aux droits des étrangers. Donc, effectivement, je fais partie d'Amnesty International, mais aussi du CFED Asti à Évreux, qui accompagne les personnes dans leur démarche de régularisation. Et je suis aussi très en lien avec RESF 27. Les personnes en situation de primo-arrivante, par exemple, souvent n'ont pas d'appareil, enfin, ne sont pas très appareillées parce qu'elles n'ont rien, en fait. Alors, il y a des gens qui viennent de certains pays où il n'y a même pas la culture du numérique, et puis il y a des gens qui arrivent, par exemple, comme les Ukrainiens en ce moment, eux, ils arrivent parce qu'il y avait la guerre, il y a des gens qui étaient, qui étaient très bien équipés chez eux, et qui arrivent, qui sont en capacité, eux, d'utiliser, sauf qu'il y a la barrière de la langue. Ce qu'il faut dire, c'est pour par rapport aux droits des étrangers, il y a beaucoup de plateformes qui se sont mises en place, des plateformes numériques, donc pour un petit peu, c'est ce qu'on disait, un petit peu pour tout, et notamment à la préfecture. Et pour les en français aussi, hein, parce que pour avoir votre carte grise ou plein de documents, pour les étrangers, pour les titres de séjour, il faut demander un rendez-vous. Les rendez-vous ne se demandent qu'en ligne. On peut même plus, des fois, demander par mail en échangeant avec la préfecture. Ça ne se demande qu'en ligne. C'est une plateforme qui n'est même pas gérée sur la préfecture de l'heure, par exemple, si on veut avoir un rendez-vous à Évreux, et qui souvent est saturée, complètement saturée. Et en fait, les gens n'arrivent pas à avoir rendez-vous. Sauf que s'ils n'ont pas rendez-vous, ils ne peuvent pas renouveler leur titre de séjour. Et s'ils ne renouvellent pas leur titre de séjour, ils ne peuvent, et qu'ils ont été autorisés à travailler, ils ne peuvent plus travailler. Et s'ils ne peuvent plus travailler, ils perdent leur logement. Enfin, c'est voilà. Donc, pour arriver à avoir un rendez-vous, c'est vraiment compliqué et difficile. Et même les bénévoles des associations qui se débrouillent un petit peu sont submergés. L'été dernier, pour avoir le document de circulation pour les enfants mineurs étrangers, c'est pareil, les créneaux étaient tous pris. Alors, on a réussi à avoir des échanges avec la préfecture, où là, ils ont entendu et ils ont ouvert un petit peu plus de créneaux, mais le document après, pour arriver, parce que c'est complètement dématérialisé, il faut comprendre comment ça marche, et ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aidants pour arriver à rentrer en fait tous les documents tels qu'ils sont demandés pour pouvoir les télécharger, etc. Ça demande aussi du matériel informatique, il faut scanner avant. Enfin, il n'y a pas que parce qu'on pourrait dire il y a des applications sur les téléphones. Ils pourraient le faire sur leur téléphone. Sauf qu'il faut pouvoir avoir scanné, il faut envoyer les documents. C'est très compliqué. Et pour ce faire, il y a une association qui s'appelle la CIMAD, qui agit aussi par rapport aux droits des étrangers et logistique. Ils ont fait remonter des tas de demandes sur quelques années et le Conseil d'État est intervenu pour qu'au niveau des préfectures, il y ait aussi une possibilité autre que le numérique. Et que quand les gens ne peuvent pas accéder par le numérique, ils ont droit d'accéder par mode papier. Et ça, c'est le Conseil d'État qui est intervenu parce que c'était justement ça intervenait trop par rapport aux droits des étrangers, enfin des étrangers, mais je pense de tout un chacun. Hein. Et puis, quand on parle de dématérialisation, moi je pense déshumanisation. Et déshumanisation, c'est-à-dire que effectivement, il y a besoin d'aide. La personne âgée, elle a besoin qu'on lui explique. La personne étrangère, elle a besoin qu'on lui traduise ou qu'on l'aide à comprendre. Ou les personnes en difficulté par rapport à la compréhension, parce que tous les textes ne sont pas faciles. Et c'est le côté déshumanisé de notre société qui nous revient en boomerang et qui crée cette fracture aussi. C'est une fracture sociale aussi, parce que il y a des gens qui restent au bord de la route. Et c'est vrai, on disait tout à l'heure, Lucette elle le disait, il y a des gens qui justement font le choix de rester aussi, enfin de ne pas rentrer dans ce système pour rester dans quelque chose de plus sociable, en société,
avoir du contact avec les autres. Je voulais revenir du coup par rapport à ça, il y a aussi le côté à l'éducation numérique. Aujourd'hui, du coup, presque tout passe par Internet, ordinateur, téléphone. Les jeunes savent très bien se servir d'un ordinateur, comme on disait tout à l'heure, pour démarrer un jeu vidéo. Mais dès qu'ils vont grandir un petit peu et devoir faire des démarches administratives ou autres, ils ne vont pas y arriver car on ne leur a jamais appris, ils ne savent pas comment faire.
Et là, ils sont un peu bloqués, surtout si des jeunes, par exemple, sont, n'ont pas les parents pour les aider derrière, ou les parents, eux-mêmes, n'arrivent pas avec les ordinateurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, une formation, une éducation directement en école primaire, collège, sur ça, pour justement aider la population à grandir avec cet outil informatique?
Alors, a priori, j'ai envie de dire que cette formation aurait a priori lieu, puisque il y a ce qu'on appelle une épreuve, le PIX. Alors, PIX, je ne sais pas l'acronyme de quoi,
c'est représente.
Là, c'est PIX, c'est PIX. A priori, je crois qu'ils ont des obligations d'avoir. De passer des épreuves pour le brevet des collèges, donc quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc il y a quand même une approche là-dessus. Mais le souci de ces démarches administratives, c'est que tous les sites ne sont pas égaux. Et même pour des gens qui ont un petit peu l'habitude, il y a certains sites, c'est un vrai casse-tête. Il y a des choses qui sont très intuitives, il y a des sites qui sont très intuitifs, qui sont bien faits, et d'autres qui auraient vraiment besoin d'être revus. Et ce n'est pas forcément en plus les sites que l'on utilise le moins ou qu'on est amené à utiliser le moins quand on est dans des situations un petit peu précaires. Voilà. Après, il y a des sites, on vient maintenant aussi. Mon espace santé qui commence à devenir, je ne vais pas dire à la mode, mais qui va être lancé, où pratiquement tout un chacun va recevoir un courrier un de ces jours dans notre boîte aux lettres pour nous inviter à ouvrir notre espace santé pour ceux qui ne l'auront pas encore déjà fait, où là aussi, c'est pas moi, pour avoir été un petit peu dessus, je n'ai pas trouvé ça si simple que ça, et c'est même un petit peu rébarbatif. Et là aussi, je pense que beaucoup de gens vont rester sur le bord de la route de ça, alors que ça peut, dans l'absolu, l'idée n'est pas forcément mauvaise de dire que n'importe où vous soyez, un médecin, vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences, il peut consulter tout de suite toute votre historique de santé. Voilà. Alors, c'est vrai que ça part pas forcément d'un mauvais sentiment, mais c'est pas forcément non plus si bien fait que ça. Et il y a des gens qui vont. Alors là aussi, il y a quand même un souci d'histoire de protection quand même de la vie privée, puisque là on met dessus quand même toutes les maladies éventuellement que l'on a eues. Donc faut être sûr que la personne qui va pouvoir, qui va accéder à ce site-là, et là encore, c'est faire confiance à autrui, c'est pas faire confiance à soi, c'est on fait confiance à des gens qu'on ne connaît pas, et c'est un peu ça qui nous est demandé. Alors c'est ça qui nous est demandé pour beaucoup de choses. Et puis les équipements. Alors effectivement, on rencontre nous au Secours Populaire quand même des gens qui sont dans une précarité, une misère. Leur première priorité, c'est pas d'acheter un ordinateur. Leur première priorité, c'est de survivre, c'est d'avoir éventuellement quelque chose à donner à manger à leurs enfants. Donc l'ordinateur, franchement, c'est pas du tout ce qui leur semble être une priorité absolue. Alors les associations comme la nôtre, on fait du prêt de matériel, on s'est lancé là-dedans. Je pense qu'il y en a d'autres associations qui le font, mais alors voilà. Donc on essaie de pallier par du prêt de matériel, mais c'est vrai que c'est pas la priorité. Les gens, les personnes que l'on touche, leur priorité est loin d'être une priorité d'achat ou d'obtenir du matériel informatique et d'avoir un abonnement internet, d'avoir non, ils ont d'autres, et voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est je crois le premier frein dans cette affaire.
Surtout que maintenant, avoir un ordinateur à la maison, c'est même juste, parce qu'il suffit qu'on soit 3-4 personnes. Un, on a besoin pour quelque chose, l'autre fait du télétravail, une autre personne pour récupérer les devoirs, par exemple, sur Internet. Donc un ordinateur reste quelque chose comme une télé, j'ai envie de dire, maintenant, où la prise de télé dans toutes les pièces pourrait que maintenant, chaque personne puisse avoir son ordinateur personnel à disposition.
Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que
que dans une famille, un ordinateur, souvent, c'est un petit peu juste. C'est effectivement parce qu'on a, c'est un outil qui est utilisé pour plein de choses. Donc, qu'on nous impose à utiliser pour plein de choses. Donc, voilà, forcément, l'enfant, même si vous avez deux, trois enfants, c'est là en période Covid, pour la période Covid. Vous avez deux, trois enfants, ils ne sont pas au même niveau scolaire. Par définition, si vous avez, à part d'avoir des triplés, j'avais envie de dire, mais et comment ils font leur suivi s'il n'y a qu'un seul ordinateur, ça pose un problème. Donc il faudrait un ordinateur pour chaque enfant pour qu'il puisse réellement suivre à 100% le. Et là, déjà, un ordinateur pour certaines familles, c'est déjà bien compliqué. Alors en avoir deux, trois, alors là, c'est même pas envisageable.
Vous pouvez revenir aussi sur cette notion de choix, parce que vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, les personnes en précarité, leur priorité, ce n'était pas de. Allez-y, c'est normal. Merci. Ah, petit problème technique. La priorité de personnes en grande précarité était peut-être pas d'avoir un ordinateur, mais comme on l'a dit, on est plutôt dans le non-choix, c'est-à-dire que tous les services, même quasiment tout, puisque le but du gouvernement c'était de faire du 100% dématérialisé d'ici 2022, on y est. Donc que ce soit le Pôle emploi, la SNCF, les services de la préfecture, donc carte grise, permis de conduire, passeport, etc. Mais on a aussi maintenant le paiement des impôts. Accéder à la santé, prendre rendez-vous en ligne, etc., payer son loyer. Donc, c'est vraiment des services de base. Inscrire son enfant à la cantine. Donc, c'est vraiment tous les services qui sont concernés et de base.
Je préfère, effectivement, j'avais un petit peu listé un petit peu déjà les principales choses que l'on peut. Déjà, France Connect, pour France Connect, hein, qui est une possibilité, justement, on parlait de sécurité, d'avoir un seul mot de passe pour plein de services. Mais déjà, c'est les démarches fiscales, alors forcément, déclaration des revenus, les paiements des impôts, les taxes, les amendes. Après, il y a les démarches santé, obtenir des attestations de droit, déclarer la perte ou le vol de sa carte vitale, changer de son adresse postale. Là, on est vraiment dans la vie de tous les jours. Hein. Les droits individuels à la retraite, alors toutes les caisses, on ne va pas les énumérer. Les formalités administratives comme le passeport, la carte nationale d'identité, les agences nationales des titres sécurisés, l'immatriculation pour les véhicules, la consultation de ces points, les droits à la formation, le compte personnel, c'est quand même des choses qui sont et tout ça maintenant c'est pratiquement, j'ai envie de dire, à 100% informatisé. Vous voulez une carte grise pour un véhicule, alors vous pouvez. Alors, en plus, ce qui est terrible, c'est que ça ouvre des choses. Quelqu'un qui manie un petit peu l'informatique peut faire lui-même sa propre demande de carte grise. Quelqu'un qui ne manie pas, il va falloir qu'il aille taper à la porte de quelqu'un pour lui faire et que ça va lui coûter en plus que sa carte grise. Donc quelque chose, un service qui à la base devait être gratuit puisque c'est un service public, c'est censé être donc gratuit, un service public, il va falloir le payer. Donc c'est là qu'on voit vraiment le problème.
Brice Mancou, un dernier mot avant qu'on termine cette émission.
Alors, je dirais que nous avons régressé, mais alors considérablement, sur le plan de l'accès aux services publics pour nos concitoyens. Pour la simple et bonne raison que nous avons, au lieu de simplifier, nous avons complexifié les procédures en introduisant la dématérialisation qui est un frein aussi bien pour les familles modestes, pour les familles déjà fragilisées par la crise économique. Et donc là, nous sommes là devant une impuissance quand même de l'État de ne pas assurer l'accès équitable à tous les services aux citoyens. Nous sommes là devant une incapacité qui nous interpelle, d'autant que si le service public est fait pour le citoyen, et que c'est aussitôt à l'État d'assurer ce service public, eh bien, je demande si le citoyen a cette capacité à pouvoir entrer dans ce que l'État lui propose. On voit très bien qu'en termes de formation, que ce soit la formation à la culture numérique, que ce soit la formation pour les usagers dans leur démarche en ligne, ne continuez pas. Et c'est un vrai recul du point de vue de la capacité qu'avait le service public français à répondre aux besoins de nos concitoyens. Nous étions parmi les pays européens les plus regardés parce qu'on avait cette capacité-là d'avoir un service public, efficient, efficace, plus près des populations. Mais aujourd'hui, on se rend très bien contre le fossé et creusé toujours par ce même service public. Donc, c'est l'impuissance de l'État. Voilà. L'impuissance de l'État qu'on est venu constater à travers cette émission.
Eh bien, je vous remercie, Brice Mancot, défenseur des droits humains. Nous avons aussi avec nous Christian Texo, conseiller numérique et aidant Connect. On remercie aussi Lucette, institutrice à la retraite, qui fait partie aussi de vous à nous. On vous dit presque tout. Pour cette émission, je remercie aussi forcément Didier et Carlis d'Amnesty International. Merci à Juliane pour son aide au micro, ainsi que JC. Et on se dit à une prochaine émission Fréquences Droits Humains.